L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Le gouvernement de Sébastien Lecornu a proposé son projet de loi de finances pour 2026, des mesures qui doivent parvenir à un total de 30 milliards d'euros d'économies. Et parmi ces mesures, l'économie sociale et solidaire est particulièrement visée. Le budget qui lui est consacré devrait en effet subir une baisse de 54%, un désengagement injustifiable de l'État, selon Benoît Hamon, président de SS France, donc Économie sociale et solidaire France. L'économie sociale et solidaire, on le rappelle, rassemble toutes les organisations associatives ou non qui font primer l'utilité sociale de leur activité économique. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement et quelles pourraient être les conséquences de telles coupes budgétaires sur ce secteur et par répercussion sur les citoyens, le public bénéficiaire? On en saura plus avec notre invité Yann Frémaux, directeur de la MJC Prévert. Bonjour.
Bonjour Charlie.
Ainsi donc que Thierry Cozic, sénateur de la Sarthe, rapporteur spécial du budget à l'économie sociale et solidaire du Sénat. Bonjour également.
Bonjour.
Première question. Donc Yann Frémaux, j'ai résumé en une ligne ce que c'était que l'économie sociale et solidaire, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait privilégier l'utilité sociale?
Alors dans l'économie, mais je parle sous le contrôle de monsieur le sénateur qui est sans doute plus expert que moi juridiquement, il y a plusieurs formes d'économie. Il y a un pilier de l'économie qui est l'économie publique à laquelle on est tous attachés parce qu'elle rend un certain nombre de services publics, et je tiens à repérer pour nos auditeurs qui auraient écouté les deux interviews de ce jour qu'il y a beaucoup de liens dans les enjeux et problématiques qui ont été partagés.
Pour ceux qui écoutent en diffusion, vous parlez de Thierry Cozic sur le statut des jeux locaux.
Exactement, et sur les questions de citoyenneté, de démocratie, de soutien à l'engagement des élus, moi je pense aux bénévoles pour l'économie sociale et solidaire, il y a pas mal de choses communes. L'économie sociale et solidaire dans l'économie privée, donc à côté de l'économie publique, correspond aux organisations dont les membres ne partagent pas les bénéfices globalement, puisque ce qui caractérise une entreprise, c'est des apporteurs de capitaux font tourner une association, une entreprise, également pour générer du profit dont les membres se partagent ce bénéfice. Alors que dans une organisation de l'économie sociale et solidaire, les profits éventuels, les bénéfices qu'elle peut engendrer, ce qui me permet de tuer une légende urbaine qui dit qu'une association ne peut pas faire de bénéfices, non, une association ou une organisation de l'économie sociale et solidaire peut faire du bénéfice, elle n'a pas le droit de le partager entre ses membres. Ce qui fait que ce bénéfice est entièrement consacré à l'investissement et aux membres.
Alors pour donner un exemple concret, quelle est l'utilité sociale d'une MJC par exemple, puisque vous êtes directeur de MJC?
Oui, alors effectivement, pour refaire, dans l'économie sociale et solidaire, un point important correspond au champ associatif et à la vie associative, donc à côté notamment des mutualités, qui est l'autre deuxième forme des organisations de l'économie sociale et solidaire. Pour les associations comme les nôtres, c'est essentiellement des enjeux de liens sociaux. Pour ce qui nous concerne en propre, on aime bien parler de l'éducation populaire parce que c'est ce qui nous anime depuis notre création. Donc c'est tout ce qui concourt à favoriser le vivre ensemble, dont M. Cozic parlait également tout à l'heure, renforcer les liens. Notre objet statutaire à nous, spécifiquement MJC, d'y permettre aux jeunes comme aux adultes de prendre conscience de leurs aptitudes pour devenir des citoyens actifs d'une démocratie vivante. Donc tout ça passe par énormément d'espaces d'expérimentation, d'apprentissage, de faire ensemble, comme la radio, le cinéma, les pratiques artistiques, les spectacles, etc.
Alors Thierry Cozic, plus de 50% du budget de l'État pour l'économie sociale et solidaire en moins, est-ce que ça veut dire la moitié des organisations de l'économie sociale et solidaire qui disparaissent, ou c'est plus compliqué?
Ça, en fait, on est simplement quand même sur ce sujet, on est dans un moment particulier des finances publiques. On paye clairement aujourd'hui, ça remonte à 8 ans, l'arrivée d'Emmanuel Macron qui a fait le choix de favoriser ce qu'on a appelé la politique de l'offre, avec le ruissellement, et donc qui a engagé un certain nombre qui a coupé un certain nombre de recettes du budget de l'État, je rappelle, de l'ordre de 60 milliards d'euros par an, au profit, simplement, des entreprises principalement, des gens les plus fortunés, au détriment en fait d'un certain nombre de structures dont l'économie sociale et solidaire fait aujourd'hui porte le chapeau. Parce que clairement, la difficulté, c'est qu'on a augmenté de plus de 1 000 milliards le déficit. On a la dette, le déficit public n'arrête pas de progresser à plus de 6%, met en difficulté les finances françaises. Et donc là, la proposition qui est faite, c'est de raboter partout. Et l'économie sociale et solidaire fait partie simplement d'une ligne dans le budget de l'État, qui n'est pas très importante d'ailleurs, puisque c'est une ligne qui se chiffre de mémoire à quelques millions. On parle pas de milliards, on parle de quelques millions. Sur un budget qui chiffre en dizaines de milliards d'euros. Et donc simplement, aujourd'hui, le choix qui a été fait par le gouvernement, c'est de raboter l'ensemble des lignes budgétaires, toutes les dépenses, quelles qu'elles soient, à l'exception de la justice et de la police.
Parleriez de choix idéologiques, tiens, Cosic ?
Alors, je ne sais pas si c'est des choix idéologiques, simplement, si moi j'étais en responsabilité, c'est pas cela que je ferais. Clairement, aujourd'hui, tout à l'heure, j'évoquais les conditions du vivre ensemble. Aujourd'hui, elles passent par l'économie sociale et solidaire. Elles passent aussi par les budgets d'éducation, par la prévention. C'est des choix qui ont été faits, dans lesquels moi je ne me retrouve pas. Et donc, l'objet du PLF qui est en cours, du projet de loi de finances qui est en cours, d'examen du projet de loi de finances, c'est aussi d'aller lutter pour remettre des crédits, notamment sur la mission économique qui porte le budget de l'ESS.
Mais alors, Yann Frémaux, pour ce qui est des MJC, par exemple, les subventions publiques d'État représentent à peu près 5% du budget d'une MJC. Un désengagement de l'État, est-ce que ça vous mettrait vraiment en péril ? Quelles seraient les conséquences ? Est-ce que c'est des emplois en moins, des actions en moins ?
En fait, il faut rentrer un tout petit peu dans la technique, donc je vais essayer de pas noyer nos auditeurs dans la technique. Néanmoins, il y a des éléments importants. Quand on parle effectivement du budget de l'économie sociale et solidaire, on parle des crédits qui sont dédiés au secteur, notamment pour la fonction d'animation de réseau, c'est-à-dire de soutien au réseau, donc ce qui va financer pour une grande part les chambres régionales d'économie sociale et solidaire. Donc c'est effectivement des montants qui ne sont pas extrêmement élevés. Je crois qu'on passe de 34 à 18 de mémoire, enfin c'est de cet ordre-là. Néanmoins, le plus gros risque, il est que les organisations au sein de l'éducation, de l'économie sociale et solidaire, sur les autres programmes, sont également de manière très importante impactées. Par exemple, dans cette baisse de l'économie sociale et solidaire, puisqu'on n'est que sur cet élément sur les chambres régionales, par exemple, ou sur les têtes de réseau, ou sur un dispositif très utilisé qui s'appelle le dispositif local d'accompagnement pour soutenir les employeurs de l'économie sociale et solidaire, ne figurent pas les moins 140 millions aux pratiques sportives, les moins 250 millions à la jeunesse, à l'éducation populaire, les X millions dont je ne me souviens même plus qui font qu'on va avoir moins de 40 000 services civiques en moins, moins de 70 millions. Tous ces chiffres-là ne sont pas dans ce chiffre de 54% qui ne correspond que ce qui finance les têtes de réseau, les dispositifs dédiés à l'économie sociale et solidaire. Mais dans le PLF, dans le PLF 2026, donc pour traduire, dans le projet de loi de finances 2026 du gouvernement, il y a énormément de lignes qui sont inquiétantes pour les organisations de l'économie sociale et solidaire, pour les associations, d'éducation populaire comme les nôtres. Et surtout parce qu'on participe d'un écosystème où, quand on fragilise à peu près tout le monde, ça a des effets croisés importants. Par exemple, on parle de la MJC Prévert, donc on parle de Radio Alpa. Radio Alpa travaille avec énormément d'organisations du territoire, dont des organisations associatives. Si nos collègues des autres associations sont fragilisés, on sait que de facto ça fragilise Radio Alpa, parce que quand on veut faire, je vais faire un clin d'œil à Monsieur Cosic, un plateau sur le festival de BD d'Arnage. Si le festival de BD d'Arnage n'a pas les quelques centaines d'euros pour accueillir le plateau de Radio Alpa, bah les deux sont perdants, quelque part, parce qu'on n'est pas dans une relation économique, mais il faut que les choses puissent se faire néanmoins. Donc voilà. Sur la partie d'État, par exemple, dans les lignes qui n'ont pas été évoquées jusque-là, par exemple, il y a, parce qu'on est dans le studio de la radio, le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Ce fonds de soutien, c'est moins 44%, c'est qui est évoqué. Pareil, ça s'ajoute au reste. Donc là, typiquement, c'est vital pour la radio.
On en parlera plus en détail dans l'émission demain. Ouais. Je rappelle donc ce que vous avez déjà mentionné, il me semble, donc une baisse de 26% sur la jeunesse et la vie associative. D'ailleurs, le mouvement associatif se mobilisait le 11 octobre pour alerter face à, je cite, une crise sans précédent. Mmh. Et pour le directeur général de MJC de France, Patrick Chenu, le mouvement associatif n'a jamais été confronté à un tel manque de considération de la part du pouvoir. Yann Frémaux, vous êtes directeur de MJC depuis 20 ans. Mmh. C'est un constat que vous partagez, une situation de fragilité inédite du monde associatif.
Oui, complètement. Pour des raisons là aussi proches de l'échange qu'on a eu tout à l'heure, sur la relation avec ce qu'on appelle un peu théoriquement, alors aussi là c'est un peu technique, mais avec la société civile organisée. C'est-à-dire que pendant longtemps, la pratique de relation avec les grandes administrations et avec les élus locaux était une relation de proximité, d'échange, de débat. Parfois on n'était pas d'accord, mais on se voyait, on discutait, on débattait et on échangeait des partages de réalité des territoires. Et ça s'est extrêmement dégradé. C'est-à-dire que la relation à ce qui s'appelle les corps intermédiaires, donc on pense souvent aux syndicats, mais on s'estime être des corps intermédiaires. Il faut savoir que la moitié des associations en France sont affiliées à une fédération, à une tête de réseau, et qui elles-mêmes se regroupent. Et le mouvement associatif représente la moitié des associations en France. C'était l'occasion, on avait pas mal d'espace d'échange et de discussion pour parler des réalités locales. Ces espaces sont de plus en plus ténus, puisqu'on est de plus en plus dans des politiques publiques verticales, et qui empêchent le débat, est beaucoup plus fondé sur des appels à projets, plutôt que sur une relation de territoire.
Donc ça change votre modèle économique.
Complètement, puisque bah, voilà, le CESE et les CESER, donc la troisième chambre, comme on dit, qui représente cette société civile
organisée. Conseil économique, social et
environnemental. Produit énormément d'intelligence collective sur ce qu'est la réalité de la société française, dont on peut constater de plus en plus que leurs rapports doivent caler des armoires dans certains conseils régionaux et dans certaines administrations, à regret. On est aujourd'hui dans une région qui est présidée par une présidente dont je pense que les rapports de son Césaire, pour être tout à fait familier, je dirais qu'ils s'en tamponnent le coquillard. Puisque ses rapports sont intelligents, puisque sont représentées les entreprises, les syndicats, les associations, etc. Et qu'aujourd'hui, on n'en tient pas compte.
Tiens, Cosy, qu'est-ce que vous rejoignez cette idée d'un manque de considération inédit? Vous disiez tout à l'heure qu'on est sur l'aboutissement de quinquennat Macron. Vous avez été quand même été surpris de ces chiffres?
Avec une vraie... Qu'est-ce qui caractérise les deux quinquennats Macron? C'est la disparition des corps intermédiaires. Et donc, ça rejoint parfaitement ce que vient de dire M. Frémaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une volonté que l'État... En fait, l'arrivée d'Emmanuel Macron, pour moi, c'est la prise du pouvoir par la haute administration. Voilà, qui à un moment décide de... Voilà, s'organise pour organiser l'État français, mais simplement au sein de la haute administration. Et en fait, tout ce qui est corps intermédiaire, en fait, a été complètement évacué de la discussion, si bien qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des difficultés. Et là, on arrive au bout, en fait, de ce qui a été engagé il y a une dizaine d'années, dans un moment, en plus, qui est très compliqué, parce qu'on parle de l'État. L'État est en difficulté, mais les collectivités territoriales, on leur a enlevé le pouvoir fiscal. Aujourd'hui, une collectivité territoriale, quand elle voulait financer des politiques publiques, que ce soit par le biais des MJC, des politiques sociales, notamment des politiques associatives, elle avait le pouvoir de décider ce qu'elle allait faire. Simplement, on a aujourd'hui organisé l'attrition des finances publiques et notamment des finances locales. Si bien qu'aujourd'hui, les collectivités, elles ne sont plus que dans un mode de gestion, c'est-à-dire ce qui est fait, on fait tout pour essayer de maintenir, et créer de nouvelles politiques publiques est extrêmement difficile, parce qu'en fait, on n'a pas les ressources en face, avec un État qui a pris la main, qui aujourd'hui est dans une relation dans laquelle il cherche à contraindre les collectivités. D'ailleurs, je rappelle les propos du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui était de dire que les collectivités étaient des mauvais gestionnaires. À partir du moment où vous posez ce constat, en fait, tout découle derrière. Et donc, l'objectif, c'est vraiment aussi, d'un moment, d'organiser cette attrition.
Alors, on va essayer de finir rapidement. C'est bientôt les municipales. Plus de la moitié des subventions d'une MJC proviennent des collectivités, notamment de la ville. Du bloc macroniste à l'extrême droite, les programmes privilégient des mesures d'économie sur les dépenses publiques. Suivant qui se trouvera à la mairie, Yann Frémaux, est-ce que vous craignez des conséquences concrètes pour votre structure? Est-ce que les MJC sont finalement dépendantes d'une bonne entente avec l'élu de la ville et avec sa politique?
J'ai envie de dire oui, évidemment, dans ce contexte-là, qui est assez exceptionnel et assez singulier. Comme tu l'évoquais, ça fait une vingtaine d'années que je suis directeur de MJC. J'ai eu la chance de travailler dans des territoires très différents et donc avec des interlocuteurs très différents. Et la qualité du dialogue politique était assez peu dépendant de l'étiquette. Enfin, dans l'arc républicain, je parle. J'ai eu d'excellents interlocuteurs à Nancy, c'était Laurent Hénard, à Bayonne, c'était Jean-René Etchegaray. Enfin voilà, quel que soit, avec M. Boulard, avec M. Le Foll, bref, je pourrais faire une liste importante, c'était pas décent. Là, oui, il y a un vrai enjeu, notamment parce qu'il y a quand même une montée de l'extrême droite que moi je trouve particulièrement inquiétante et qui, elle, serait délétère, parce que pour le coup, je ne suis pas sûr d'avoir un interlocuteur avec lequel je puisse échanger de manière républicaine. C'est-à-dire que, par exemple, sur ce territoire, je ne sais pas, pour faire du flagorner quiconque, on a deux collectivités importantes qui sont la ville du Mans et le département. La qualité du dialogue républicain, je peux l'avoir avec n'importe lequel de mes interlocuteurs. Pareil, on peut être d'accord, pas d'accord, mais j'ai du dialogue républicain, on parle des mêmes choses. En tout cas, on parle sur les mêmes principes, on parle sur les mêmes bases. L'inquiétude de voir des interlocuteurs qui n'ont pas ces bases républicaines m'inquiète énormément, alors que le chiffre que tu citais de la moitié, c'est un chiffre de l'Observatoire National des MJC, c'est en moyenne. Cette MJC a la chance, quelque part, de ne pas être sur ces ratios-là. C'est une MJC importante, mais notre niveau de subvention, il est de 25%. Sauf que ces 25%, ils sont un levier extraordinaire pour mobiliser le bénévolat, pour faire des actions prioritaire et de ne pas être sur du mainstream et de pouvoir convenir de projets spécifiques. Donc évidemment, demain, si on n'a pas les moyens de ça, si on ne peut pas penser l'équipement, si on ne peut pas penser l'investissement, si on ne peut pas penser les ressources humaines, ce serait dramatique.
Je vous remercie Yann Frémaux, directeur de la MJC Prévert au Mans, ainsi que Thierry Kozik, sénateur de la Sarthe et rapporteur spécial du budget de l'économie sociale et solidaire au Sénat. Merci beaucoup à vous deux.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.